Yuyu Neri, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ben, merci, Sam. Merci de m'avoir invité.
Julio, si tu pouvais te présenter en deux mots, tu dirais quoi?
En deux mots. Technologue forestier, en premier, je te dirais ça. Enseignant, ma job comme tel, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle des moissons, donc le Centre de formation professionnelle en horticulture et agriculture. Donc, j'enseigne, ça fait une dizaine d'années, en 12 ans que je suis enseignant là, ça a commencé en acériculture, puis on va pas tôt dans le cheminement, j'enseigne les cours en acériculture, et puis ensuite de ça, bien, ça a bifurqué dans toutes les arboricultures, les élagages, horticulture, production horticole, où ce que les arbres, où ce qu'on parle des arbres surtout, parce que ma base, c'est vraiment des arbres. Ça fait que dans tous ces cours-là, on discute des arbres, de la taille, de la plantation, etc. Fait que j'enseigne dans toutes les DEP, dépendamment de la cédule, pendant toute la saison. Fait que ça, c'est ma base là, présentement, là, depuis les 12 dernières années. Puis c'est sûr, ben, comme enseignant, on a du temps de libre, un peu plus que peut-être que d'autres jobs. Donc, ma deuxième job, c'est je fais encore, puis ça fait depuis longtemps là, que je fais des réalise les brise-vents, des barres de riveraines pour les producteurs agricoles dans mon secteur ici, Montérégie-Ouest, depuis 2000 aussi, là. Je fais de l'implantation. Et là, récemment, là, justement, après-midi, là, mes premiers entretiens. On sait que le MAPAC, maintenant, aide les producteurs primaires pour la taille, l'entretien des brise-vents. Fait que là, je m'en vais faire mes premières tailles, là, puis montrer aux producteurs comment tailler leur brise-vent, qui est excitant pour moi parce que ça fait 20 ans qu'on le demande. Les ingénieurs, les techniciens et les agronomes demandent l'entretien des brise-vents parce que les producteurs ne peuvent pas. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est ma job, en réalité. C'est ça, Julio Neri, qui s'occupe 12 mois par année, présentement, là.
Puis
Ouais.
le club des producteurs de noix, président aussi, depuis combien de temps?
Ben, depuis sa conception, excuse-moi, ça qui rentre en même temps. Ben, j'ai joué de on and off conception. En réalité, les premiers balbutiements du club, c'est en 2001 et 2002. Puis on s'est enregistré comme club en 2010. Vraiment, là, ça fait vraiment 20 ans là, qu'on est là-dedans. Puis on and off président, là. Secrétaire, président, vice-président, on reste dans ces titres-là, là, avec la gang.
Puis, justement, par rapport à ton parcours, c'est quoi qui t'a amené à t'intéresser aux arbres, puis aux arbres en contexte agricole aussi, tu sais? Puis ensuite, les arbres en contexte agricole, ben, c'est les arbres comestibles, tu sais? C'est quoi qui amène un grand Italien à s'intéresser à ça?
OK. C'est une longue histoire. C'est 45 minutes, tu me dis une belle intro quand Puis pourquoi je dis c'est une longue histoire en même temps? Parce que comme enseignant en formation professionnelle, il te demande, t'exige de faire ton bac en enseignement. Hein? Puis dans le bac en enseignement, il y a une section portfolio où ce que tu peux aller chercher 30 crédits. Fait que ça te recule dans le temps. Puis voir où est-ce que tu as appris ton métier comme tel. C'est pour ça que c'est quand même assez précis que je veux te dire, là, parce que c'est frais dans ma mémoire, j'ai fait ça l'année passée. Fait que, qu'est-ce qui m'a amené dans le bois? Écoute, c'est un, je suis italien. On comprend que je suis 97% italien là, dans mon DNA. Fait que j'ai fait mes recherches, là-dessus. Jeune, étant jeune, ben, mon père est arrivé ici après la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, les châtaigniers, on va commencer tout de suite à manger. Là. Les châtaigniers, ça faisait partie de. On mangeait ça tous les Noëls, on faisait rôtir des châtaignes. des marrons à la maison. Il y a tout le temps une grosse assiette de noisettes, de noix, de grenades, de tous les types de noix. Ça tape tout le temps. Tu sais, avec les casse-noix et tout ça. Après un gros souper avec toute la gang, on commençait à casser des noix et des noisettes. Fait que ça c'est la base. Là, tu sais, on part là-dessus. Mon père il travaillait en construction. Ça fait qu'il y avait 2 semaines de vacances. On allait passer ça en campagne. Un chalet que mes tantes avaient. Puis là, c'est sûr qu'il me promenait dans le bois avec lui. Là. J'avais 6-7 ans. Là. Je suis à mon père. Je suis le plus petit de la famille, ben oui. Plus jeune, plus petit, en tout cas. Je suis le plus jeune. Donc, je suivais mon père tout le temps. Puis à l'automne, ben, il allait dans ces boisés-là, puis il allait aux champignons. Il allait dans ces champignons. Noisette n'avait pas là où qu'on était. Mais,
c'était dans quel coin?
On allait, ouais, on a, dans Bromont. C'était en arrière de la montagne, la pente de ski à Bromont. Okay. Qui est maintenant rendu là. C'est la même place, là, on comprend. C'est, ça a été très développé. Donc, on passe ça dans les années 67, dans les années d'Expo, 67, 68. Fait qu'on est là, puis une affaire qui m'est revenue quand on allait dans le trajet, dans le bois, se prenait tout le temps, puis on passait dans une crique, des criques d'eau, là, d'eau de source peu qui sortait de la montagne. Puis mon père cachait tout le temps une bouteille de vin. Là. Ça fait que ça, c'était son stop. La bouteille de vin, vin blanc, il était reconnu pour son vin blanc, mon père. Puis ça fait qu'on arrêtait là, puis c'est sûr qu'il m'en donnait 3-4 verres, là, je sortais, parce que et après ça, je me rappelais plus de la sortie, mais en tout cas.
Tu veux dire qu'il les cachait dans le buisson?
Et voilà!
Ah ouais, hein, pour qu'il reste frais.
Il y avait des galons là, qui se promenaient là-dedans, là, puis à son sable, puis écoute, c'était intéressant là-dessus. Fait que ça m'a rappelé des histoires là-dessus. Fait que là, on arrive au secondaire. Il faut choisir qu'est-ce qu'on va faire au cégep, comme tout le monde. Je suis dans une communauté italo-francophone et anglophone là, à Montréal. Puis tous mes chums s'en allaient en police ou en nursing ou en des choses de même, social science, sciences sociales. Puis moi, je regardais la liste, puis là, j'ai vu foresterie. Puis je continue la liste en descendant. Ça fait que ça, c'est la deuxième planète. Là. Comme je dis, c'est les astres qui s'alignent. La deuxième planète. Je ne sais pas. Moi, à la foresterie, hein? T'as John Abbott, Saint-Anne-de-Bellevue. Mm-hmm. Je me suis sorti de Montréal comme tel. Là. Mm-hmm. Ça fait que ça va foresterie à John Abbott, à côté du McDonald's College, à mon côté de l'Arboretum Morgan, dans la FFU.
Énorme plantation de noix aussi, un noyer noir. Oui. Comme...
Ouais. Ben oui, des ginkgos énormes dans le campus, quand on grimpait dessus, des variétés d'arbres que c'était mon apprentissage dans les forêts feuillues. La chose qui a bifurqué, c'est en troisième année, ben, tout le monde se rencontrait à Québec, en foresterie, dans le temps, technique forestière. Fait que je vais juste canceller mon appel, là. Donc, j'arrive à Québec. On est 7 qui ont gradué de Montréal. C'est allé à Québec. Après ça, la gang de l'Abitibi, la gang de Chicoutimi, la gang de Rimouski, la gang de Gaspésie, la gang de... Tu sais, ça raconte tout là. Ça fait que là, ça m'a ouvert les yeux au Québec, là, comme tel. C'est fun. Sauf que là, paf, qu'est-ce qu'on étudie? La sylviculture. De conifères. La grosse affaire, c'était plus des coupes à blanc massives, c'était des coupes à blanc en damien ou des coupes à blanc en ligne. OK, c'est ça. Nous autres, la gang de Montréal, au niveau de l'identification des arbres, on clenchait toute la gang parce que, écoute, on avait bien plus vaste. Personne, il n'y a pas personne qui m'a parlé des noix, là, en technique forestière. Il n'y a pas un des profs qui nous ont jamais parlé de ça. Fait que Ça reste de même. Quand j'en sors, ben, c'est sûr que moi, je n'ai pas été en foresterie. Je suis revenu dans la région de Montréal. Donc, j'ai travaillé plus en horticulture. OK, les pépinières Kramer, les producteurs d'arbres, la gestion dans ce coin-là. Fait que là, je reste en horticulture et avant qu'on appelle ça de la foresterie urbaine, je faisais de la foresterie urbaine. Fait que, avant qu'on l'appelle. Fait que là, 98 arrive, là, je ne vais pas sauter, à 98, dans le sud, c'est le verglas. Je ne sais pas si quand je t'avais ouvert là, t'es tout jeune. Ça fait que c'était quand même plus gros qu'une pandémie. Là. Mm-hmm. Les producteurs ici en région Montérégie-Ouest, jusqu'à certains endroits là, où il y avait des forêts, à certains endroits qui étaient décimés à 70%. Mm-hmm. Si c'était 100% de cime, ben, il y avait 70% d'air. 90% terre, t'sais, des grosses sections. Fait que là, les producteurs acéricoles en premier, puis les producteurs forestiers après aussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la première fois que ça arrive dans un endroit de même. Fait que là, j'ai été engagé à l'Union des producteurs agricoles pour aller aider, d'une certaine façon, les producteurs acéricoles. Et en plus, on avait 300 employés, plus ou moins, là, pendant 2 ans et demi. Là, 300 employés sur 50 à 60 fermes, juste pour aller aider les acériculteurs à remonter leur chose là-dessus. Mm-hmm. En même temps, on commence à faire des projets spéciaux, des projets spéciaux à l'UPA. Puis, un des endroits où on avait des problèmes, c'est avec les trouées de verglas. Bien, il y avait des grosses trouées qui étaient formées. Puis là, le soleil rentrait. Fait que là, ce qui va pousser en dessous, c'est dépendamment des endroits, c'était du peuplier faux-tremble. C'était des essences colonisateurs qui revenaient là-dessus. Fait que là, moi, je me suis dit, écoute, il faut planter. Bien, pas moi, mais en tout cas, avec l'association, avec le syndicat, il faut planter ces trouées-là avec des l'érable à sucre, si on va avoir des l'érable à sucre. Ou s'il y a de l'érable à sucre en régénération, bien, on va aller le travailler. Mais il y avait des endroits où que non, c'était pas ça. Fait qu'on voulait replanter de l'érable à sucre. Mais là, en 1999-2000, aux agences forestières, là, les forêts feuillues, dans des érables à sucre, oh, on a produit-tu à l'Assomption? On a produit un peu, ben, correct. Fait que là, il y en avait un petit peu là, de disponible, mais pas assez que ce qu'on voulait. Fait que là, j'ai mis mon bout horticole en jeu. On a pris du monde, puis on est allé extraire des érables à sucre dans les forêts où il y avait des érables de 2 mètres et demi, 1 mètre, 1 mètre et demi. On les a extraits à un moment donné et on les a plantés dans ces trouées-là. Fait que c'est la première plantation feuillue en utilisant un peu la méthode horticole en milieu forestier. Alors, je te dirais que ça a fait une vague là, au niveau forestier parce que oh, ça ne marche pas, oh, c'est comme ça. Oh. Le temps que tu vas perdre avec le petit pouce, ça va prendre la salle. Je dis, gars, pour nous autres, c'était une façon chez les producteurs agricoles de les encourager. Ils ont encouragé à dire, écoute, voici, là, on s'en vient de planter chez toi là, une cinquantaine d'érables. Souvent, c'était chez le même producteur. Faisant un inventaire, on trouvait des érables en régénération. On arrache ça, on plante ça là. On a trouvé directement. Fait que cette technique-là, on l'a faite pendant 3 ans de temps. Il y avait des équipes qui faisaient ça. Puis c'était le fun. Là, en même temps, ben, on a commencé des brisodeurs. André Vézina et à la Pocatière, il avait été chercher la technologie dans le Midwest américain où ce qu'on pouvait planter des arbres alentour des fermes porcines pour réduire le montant d'odeur. Fait que là, une autre équipe là-dessus, let's go, on fait une quinzaine de producteurs porcins à faire des plantations d'arbres alentour de certaines façons. Et les brisements commencent à prendre l'ampleur aussi dans les terres Bélanger de Saint-Rémy. Fait que ça, c'est d'autres projets. Okay? Un autre projet qu'on a fait, puis ça, tu me fais, Sam, je voulais t'envoyer l'information, je te l'enverrai. Genévrier, OK. Mm. Cèdre rouge. Ici, on appelle ça du cèdre rouge. C'est du Juniperus virginiana. OK? Mm. C'est sûr, il n'en restait plus dans le sud-ouest du Québec. Coupé tout à blanc parce que les producteurs utilisaient ça pour des beams dans les granges et pour des poteaux de téléphone, des poteaux de téléphone, des poteaux de clôture parce que ça a les mêmes priorités que la sel. Ça, ça pourrit ça. Fait que là, en voyant ça aussi, puis je sais qu'il y en avait dans le bout de Mingford, tout ça, ben, on a implanté un autre projet que j'avais demandé à l'Agence forestière dans le temps, c'est on a implanté 4000 Juniperus virginiana un peu partout dans la région, dépendamment des producteurs, chez des producteurs. Pas pour la baie, là, pas pour la baie, mais pour refaire le bois là, comme tel. Là. C'est un beau chose. Il y a des maladies là-dedans, là. Donc, je ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas, ceci dit, on a implanté ça. Ça fait que ça, c'était tous des projets issus du verglas là, qu'on est en train de préparer. Dans les noirés. C'est là que ça a commencé à grouiller. Puis je vous dis à tout le monde, là, j'ai rien inventé. Là. J'ai rien inventé. On se comprend. À partir de là, ça commence à gruger. Une première personne me parle du noyer noir. Pourquoi ne plantez pas du noyer noir? Pourquoi ça, du noyer noir? littéralement, c'est quoi ça, du noyer noir? Ça, c'est du beau bois. C'est la noix. La noix. Ah, c'est pas vraiment. OK. Ça, c'est un de mes chums proches qui était dans le sud d'Ontario, qui était habitué avec déjà du noyer noir. Puis, c'est ça. Okay. À force de voir des producteurs, à un moment donné, la noisette est arrivée sur la table. Hein, moi, j'allais aux noisettes quand j'étais jeune. Quoi? tu vois, ouais. Mm-hmm. Ouais. Puis là, de temps en temps, en me promenant plus dans le bois, ben, je l'avais vu un petit peu. Ah, ouais. OK. Noisette, ah cool, c'est un arbuste, c'est le fun. Ça reste la main. Ça va s'établir en arrière de ma tête à quelque part. L'autre, il y en a un autre qui dit, hey, moi, j'allais se feiner. Le feiner. C'est quoi? C'est vrai, c'est feiner. Ouais, non, ça semble un tournesol, c'est tout petit, c'est, puis on en ramasse quand il y en a plein. Là. Ouais, mais c'est quoi qui se feine quoi? C'est la hête. La hête. La hête, c'est une mauvaise herbe pour le forestier, la hête. Non, mais tu sais, c'est hein, hey, ouais, wow, OK, ça en a eu de la tête. Puis là, il y en a qui allaient au noyer long, pointu. Là, ils ne savaient pas c'est quoi, c'était du noyer cendré. Hein? Ah, c'est tabarnak, c'est quoi cette histoire-là? Fait que là, ça gruge dans ma tête. Puis je commence à faire un peu de recherche Internet. Grimaud pop-up. C'est Grimaud Nurseries dans le sud d'Ontario que ça pop-up en premier dans ce temps-là. Et là, c'est là que j'ai rencontré Bernard Contré, pignal à feuillet, qui lui, ça faisait déjà 20 ans qu'il était là-dedans. J'ai dit, mais t'étais où? Fait que ça. Là, je dis, OK, je vais déposer un projet à l'Agence forestière. Me planter des arbres à noix. C'est ça. T'sais? J'ai jamais planté, à, je sais pas moi, 2000 arbres à noix. Fait que là, je demande 25 000 piastres. C'est une autre demande de projet qu'on faisait. T'sais? On écrivait. Je l'envoyais. Je sais plus s'il reste encore du monde, là, ce temps-là, qui était là, mais en tout cas, carrément, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? On subventionnera pas ça, là, ça n'a rien à voir avec les arbres, puis c'est ça. Mais c'est des arbres, tu sais. Non, va-t'en au ministère de ça. Va-t'en au MAPAC, c'est ça. Il dit, mon MAPAC, faire des demandes là-dessus. C'est de la bouffe, il faut rien savoir. Je fais la même chose au MAPAC. J'étais assez tête avec le MAPAC dans le coin. Littéralement la même réponse. C'est la même réponse. Il me regarde. Fais-le, tu colles. C'est quoi ça, des noix? Ça, c'est des arbres. On ne fait pas de la gestion d'arbres. Puis, mais je dis, les pommes, c'est quoi? Il dit, les pommes, c'est quoi? En tout cas, OK, c'est un autre refus. Là, je fais un... OK, là, je dis ça à mes partenaires à l'UPA, producteurs en silicone, producteurs de pommes, tout ça. Je leur parle un peu de ça. Puis il y en a qui ont allumé tout de suite. Je dis, OK, on s'en va faire un tour dans le sud d'Ontario. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Puis on reviendra après ça, checker ça. Fait qu'on part une délégation de l'UPA, de différents producteurs, producteurs forêts, en foresterie, tout ça. Des gens du MAPAC. Puis on fait la tournée dans le sud d'Ontario. On part par chez Grimaud, puis on s'en va faire jusqu'à Windsor. Voir ce qui se passe là. Et effectivement, là-bas, c'était de la production de tabac. C'était beaucoup de tabac que leur MAPAC, là, leur c'est, je ne me rappelle plus c'est quoi l'anagramme, en tout cas, ils donnaient de l'argent pour, ils subventionnaient pour changer du tabac à d'autres choses. Mm-hmm. Puis, noix, châtaigniers et les autres noix, noisettes un petit peu, dans ce temps-là, c'était une production possible émergente qui pouvait changer. Ça fait qu'il y avait plusieurs producteurs qui sont là-dessus. C'est là qu'on a vu les autres types de noyers, les noyers de cœur, les hybrides dans les... Ah oui, les carriers. Ça, celle-là, je l'ai vu là-bas, là. J'arrive sur un site, je suis un producteur, il y avait des pécanes du Nord. Mm-hmm. Puis était ça de grosse, là, puis un bel arbre. Là, il me dit le nom en latin, Caria Elionensis. Caria Elionensis, Caria. Mais on a des Caria, nous autres. La pécane comme telle, c'est un Caria aussi. Fait que là, plaf! Je me rappelle, dans la flore laurentienne, ma Bible, hein, quand on avait étudié, on a Caria noix douce et Caria noix amère. Hein? Caria cordiformis, Caria vata. Là, Bernard le savait, là, il dit on le savait, mais moi, ça m'a allumé. J'ai un autre, on a une pécane au Québec qui pousse. Là, la première chose que j'ai faite, j'ai goûté au Caria ovata quand je suis venu. C'est ça! Les goûts de la pécane, les 40, puis tout ça, puis on l'a ici, tu sais. Wow! Fait que là, j'ai mis tout ça ensemble, j'ai dit, je peux se déposer un autre projet, je demande à la gang à l'UPA, parce que j'avais perdu plus. Oh, ouais, on m'en est, parfait. Fait que là, j'ai changé le titre. J'ai marqué plantation d'arbres à feuilles nobles à noix, OK? Donc, pour la croissance du bois en premier. Mmh. En attendant qu'on récolte le bois, on va avoir de la noix en production. Fait que là, je reviens dans la zone grise, dans la zone forestier, agricole, horticole. Okay. Mmh. Et je dépose. Fait cocasse, j'ai demandé trois fois plus cher. Puis je l'ai eu. Là, on l'a eu finalement. Fait que c'est là que ça a vraiment cimenté là, le début du club. Parce que là, tu dis, OK, on a des sites, on a mis du monde en place pour choisir des sites, pour planter le plus possible de noix comestibles, incluant les chaînes sont rentrées là-dedans, chaînes blancs, les chaînes hybrides, que Bernard m'a connecté avec les gens de New York. Tous les types de noisetiers possibles qu'on avait dans le temps. Les carriers ovales, rajoutés là-dedans. Puis là, le châtaignier est sorti. On a retrouvé des gens qui avaient des châtaigniers. Je ne connaissais pas la maladie pantoute. Là. Je ne connaissais rien sur Castanea dentata. Puis, ça fait que là, on a essayé d'en chercher les différentes sortes, différentes sources. Et on a implanté les 10 premiers essais de plantation, donc en 2002-2003. Mm-hmm. Le club, ben là, ça s'est formé comme ça. Là, je raconte, on rencontre les Perrault Brothers. Monsieur Blais, qui lui en faisait déjà à Sainte-Croix, il faisait de la noisette à Sainte-Croix, puis qui en parlait depuis 10-15 ans. Bernard, bien sûr, à 100%. Puis là, le noyau là, du club, là, j'oublie J'oublie des gens, là, c'est sûr, là, mais on était 8, 9, 10, puis on a commencé à se rencontrer, puis on fait un club. Bon, c'est pas un syndicat, là, un club. On fait s'échanger, mm-hmm. puis tout ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comment ça s'est aligné, là, un petit mm-hmm. peu. Ça, par hasard, tu sais, c'est juste ça. C'est juste que, mm-hmm. que je suis plus vocal puis plus pesant. mm-hmm. On défonce des portes. Mais,
mm-hmm. mais c'est particulier parce que, tu sais, ton parcours, il est un peu représentatif aussi de la majorité de la population, dans le sens que les arbres à noix étaient dans l'angle mort. Tu es un forestier de formation. Il y avait des noix dans la forêt où tu as eu ta formation, mais il y a comme un tabou, comme si ça n'existait pas dans ta tête. Pourquoi au Québec c'est comme ça? Est-ce que c'est par leur répartition géographique qui est toute petite, qui sont peut-être moins présents? Pourquoi il y a ce pourquoi on connaît peu les arbres à noix?
Ceux qui m'en parlaient, là, les producteurs qui m'en parlaient, il ne faut pas oublier, c'était plus une subsistance. Hein? Ils allaient aux noix, c'était plus une subsistance, c'était pour nourrir. Ici, il y avait un cercle où tu commençais avec du sirop, tu tatoyais tes érables, puis après ça, tu commençais dans les champs au printemps, puis... tu faisais des affaires, puis à l'automne, tu allais aux noix, puis tu allais aux champignons, puis c'était père en fils, ça s'est passé de même, mais en même temps, est arrivé dans les années 70-80, les révolutions agricoles, là, où c'est que on commence à parler d'une production massive, puis tu sais, la grande culture, là, je vais le dire comme ça, où c'est que, nos forêts ont été coupées. Ils veulent faire du maïs, ils veulent faire du soya à grande échelle. Fait que, qu'est-ce qui était là, la ressource qui était là, ben, elle a été reculée en même temps que l'urbanisation, là, dans mon coin, là, a reculé l'agriculture. Ben, l'agriculture, avant, c'était toutes des forêts. Là. Les maraîchers de Saint-Rémy et Sainte-Clotilde, c'était des marais, c'était des swamps. Jusqu'avant que les drains, ça devienne des producteurs. Ça fait que, pour moi, c'est un peu ça. Ça s'est perdu comme ça. Puis, la mentalité de production annuelle vient en ligne de compte où ce que un arbre qui va produire, bien, ça prend du temps. T'sais, comme on a l'idée, ça prend du temps. Un pomiculteur là, qui va s'investir, là, il veut que sa production se produise, puis il veut qu'elle produise à chaque année. Rentabiliser la terre là, à 100%. Ça fait que la noix, là-dedans, étant souvent les plus gros arbres, à part la noisette, là, les plus gros arbres, ben, dans l'annuel, la production annuelle, ça devient un petit peu plus dur. Ça fait que ça s'est oublié pour moi, plus que d'autres choses. N'empêche que souvent, quand il y a du monde, ça ne fait pas longtemps, soit au lac, soit jusqu'à Gaspésie, ces régions-là, ils allaient aux noisettes encore quand ils étaient, ça fait pas longtemps. Fait que c'est pas perdu, mais c'est perdu plus, ça a été plus, moi je te dis ça, plus, moins intensif comme production que tout ça.
Puis maintenant, 20 ans après la fondation du club, comment ces mentalités-là ont changé dans le public général? Comment on considère les noix comestibles maintenant?
C'est tout un engouement. Autant que la pandémie a amené, moi j'appelle ça la tornade horticole là, dans l'horticulture, ça a rajouté, pour les noix, ça a rajouté un autre, ça a monté les noix d'un autre cran, la noix comestible au Québec. Production locale d'un produit qui est bon et simple à la santé, qui n'a presque pas de négatif. On essaye de garder ça bio. Ça, c'est l'autre petit bout. C'est sûr que c'est plus difficile là, dès qu'on arrive en verger. Fait qu'un produit local bio, qui était déjà dans, comme tu dis, j'ai bien aimé ton, qui était déjà dans l'angle mort, là, qui, ben là, on a avancé, puis là, on voit, là, la, on la voit, cette production-là. Ça avance super bien là-dessus, puis moi, je trouve que c'est pour le futur, là, ça va être phénoménal.
Mm-hmm. Puis est-ce que aujourd'hui là, si on veut encourager des producteurs, est-ce que l'argument de dire « Ah, on va produire du bois, premièrement, puis ensuite des noix », est-ce que c'est encore ça ou maintenant les gens sont plus intéressés par le potentiel des noix en tant que tel?
C'est la noix qui prime, effectivement. Effectivement, c'est la production de noix qui prime. Il y en a beaucoup là, qui ils vont voir, mais c'est comme un acériculteur. Un acériculteur, là, il aille ça, couper un érable à sucre. Quand on lui disait, écoute, t'en as trop d'érable à sucre là, ils ont de la misère à pousser, il faut absolument que t'en coupes un sur deux. Et tabarnouche, c'est quasiment des larmes qui sortent. Ça va être la même chose avec les noix. On va avoir des beaux spécimens d'arbres qui vont produire, mais qui sont trop tassés parce qu'on les a plantés trop proches au début, parce que c'était correct. Là. Mais l'idée, c'était d'aller retirer le bois à chaque deux arbres ou à chaque trois arbres pour laisser la place après à l'autre arbre et continuer à produire. Puis ça. Fait que c'est sûr que couper un noyer noir quand il n'est pas à sa grosseur, le bois, là, moi, je veux de la noix. Là. Mm-hmm. Je regarde chez Yvan puis Alain Perrault, c'est assez serré, hein, c'est planté serré. Je dis, à un moment donné, il va falloir être en coupeur. Ça va être plus dur. C'est ça que je te dis, le bois va être en arrière. Puis, au début, c'était ça aussi. Là. C'est sûr que on a vendu l'idée qu'il va y avoir du bois pour avoir l'octroi. Mais en réalité, je savais très bien que c'est la production de noix au niveau agricole qui va primer. Puis si le bois, c'est un bonus après, ben, tant mieux. C'est fantastique, let's go. Il y en a qui ont passé de même dans leur plantation. Excellent, c'est la gestion parfaite de ça, mais sinon, les autres, il va falloir qu'ils en coupent un peu. Bon, c'est pas grave. Le carrier, tu sais, producteur, là, présentement, pour un lac de carrier, là, je pense qu'il y a 300$, 250$. Il n'y a pas de marché pour. Puis pourtant, tu peux aller chercher une planche chez Canadian Tire à 12,95$ pour fumer ton poisson dessus, là. OK? Parce que c'est du hickory, tu fumes tes affaires là-dedans. Tu sais, moi, je vois un non-sens là-dedans. Là. Si on plantait du carrier, puis qu'ils vont produire de la noix pendant 30, 40, 50 ans, le bois, tu peux le valoriser ensuite comme il faut, puis l'utiliser. Mm-hmm. Là, ça va être parfait. Ça.
Puis on en est où, là? Par rapport à tous les vergers qui se sont plantés, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des noix répandues sur le marché prochainement? On en est où là, dans la production des noix au Québec?
Oui, non. Je vais juste revenir de 20 ans aussi, quand on a pensé à cette histoire-là. J'ai parlé beaucoup avec des producteurs de pommes et des producteurs de sirop. Pourquoi j'ai parlé à ces gens-là? Parce que premièrement, les terrains étaient propices à planter de ces arbres-là. Puis ces noix-là qui vont être cueillies ou qui vont être ramassées à l'automne peuvent facilement être vendues à la ferme avec la tarte aux pommes, avec les pommes, avec le sirop d'érable, puis tout ça. Je suis dans le secteur à ça. Là. Ça fait qu'on pensait beaucoup plus à ça quand on a mis la diversification à la ferme dans le temps, quand on a mis ça en place. Puis, le club, quand on s'est rencontré 3-4 fois, c'est quoi qui manquait? La première chose qui manquait, c'était des arbres. Fait que la première chose qu'on a faite au club pendant 7-8 ans de ça, c'était de vendre des arbres, mais pas de vendre parce qu'on produisait comme tel, mais bien de prendre des commandes d'après qu'est-ce qu'on peut aller acheter sur le marché. Ça fait qu'on avait du stock de Colorado, on avait du stock d'Ontario, on avait du stock même de l'Est canadien aussi, quelques petites pépinières, le stock qui était produit au Québec. Alors, on mettait ça en commun, à voir qu'est-ce qu'il y avait disponible, puis on envoyait la liste à nos membres, puis là, les membres choisissaient. Donc, pour activer la plantation d'Abanois, quand on n'avait pas d'Abanois, mais on a commencé. Puis là, qu'est-ce qui arrive présentement? Bien, présentement, ça fait 5-6 ans. On a... Ça fait 8 ans qu'on n'en fait plus, là, de ça. Il y en a qui m'en demandent encore, là. On n'en fait plus. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a des pépiniéristes qui sont mis en place pour vendre. Tu sais, des Abanois, pépinières ancestrales, Marco, Harvey...
pépinières casse-noisette.
Merci, casse-noisette. Tu sais, Bernard, c'est sûr. Puis toutes les pépiniéristes qui sont mis en place pour vendre de ces Abanois-là, ça a créé une économie là, autre. Là, parce qu'on avait besoin de plantation d'arbres si on veut avoir des noix. Là, hein? Fait que ça, c'est un bout qui a été super le fun à voir pousser. Puis là, à cette heure-là, on est rendu à l'implantation. Il manque d'abanois encore pour les gens qui en veulent, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui en ont mis en place, des vergers, puis on en a plusieurs, bien plus qu'on pense. Puis c'est pour ça qu'on faut aller chercher ces données-là. Là, on est rendu à... Ils sont en production. Il y en a qui sont en devenir en production, mais ceux qui sont en production présentement, ils vendent à la ferme. Les UPIC, okay? Ils vendent à la ferme. Ça ne sert à rien pour eux d'aller... Il y en a qui ont essayé d'entrer dans les métros, IGA, tout ça, dont une qui a eu une expérience là-dedans. Non, tu n'es pas obligé. Tant et si longtemps. Grimaud, ça fait 35 ans qu'il y a en Assis d'Ontario qui vend aussi de ses noix, là, pas juste ses arbres, ses noix. Il n'a jamais sorti de chez eux. Bon, chez eux, chercher les noix, où il y a des commandes, envoyé par la poste. Fait que moi, je vois encore plus facilement les prochains. Il y a le marché Jean Talon, là, il y a des marchés, là, ça c'est correct. Ça, c'est, tu sais, où est-ce que les champignons aussi, ça commence aussi là-dedans, tout ça. Où est-ce qu'il y en a qui vont acheter pour acheter. Mais de là à avoir des étagères noix du Québec dans les métros puis tout ça, j'aimerais ça que le monde attende un peu. Je te dirais, attendez un autre 5-6 ans. Attendez que les productions et les producteurs ont les produits. Si on a de la misère à les écouler, là, on regardera à voir là-dessus. Mais moi, je prévois pas qu'il va y avoir, du stock à écouler.
Bon, mais en plus des enjeux agronomiques là, dont on a parlé, tu sais, la répartition beaucoup plus grande des terres agricoles en grandes cultures, le fait de trouver les bons cultivars, la bonne rusticité, ça a été des enjeux bons qu'on n'a pas encore totalement surpassés, mais on est déjà sur une bonne lancée. Tu sais. Là vient l'enjeu de qu'est-ce qu'on fait avec les noix, tu sais, puis leur conditionnement. Les noix nordiques, c'est souvent des noix à coquille dure. Puis, si tu pouvais parler de pourquoi, ben, peut-être pas pourquoi, mais quand on pense à la noix de Grenoble, là, que tout le monde sait pour l'avoir cassée à Noël, il suffit d'un petit casse-noisette à la main, puis tu as deux beaux cerneaux symétriques qui sortent. Bon, ça goûte un peu le rancis, là, mais ça, les gens le savent pas d'avoir goûté des noix locales, puis fraîches. Mais, puis même chose pour la pacane, tu sais. Donc, il y a l'enjeu de casser les noix, puis sur une échelle quand même d'envergure, là, industrielle. Je sais que le club a beaucoup travaillé sur des prototypes de casse-noix, parce que c'est pas vrai qu'avec un petit casse-noix à main, on peut casser les noix de noyer noir. On en est où, justement, sur ces enjeux-là plus technologiques de manutention?
Est tough, celle-là. Il faut démystifier, premièrement, la noix. C'est laquelle, qu'on parle de laquelle noix. Le monde ne le savent pas, vous à part certaines personnes, que on parle d'environ 14 hein, sortes de noix. Puis chacune a ses façons de casser la coquille. Fait que c'est sûr que si je prends carrier ovale, hein, ben, quand on la casse, celle-là, on peut la casser avec un casse-noix ordinaire, mais à partir de là, il faut quand même une technique pour aller chercher l'amande à l'intérieur. Tandis qu'à l'opposé extrême, tu as le noyer noir, qui est la coque qui est la plus dure, qui a besoin de la machinerie heavy duty pour la casser. Si tu regardes la noisette, on est clair, hein? Noisette, on est capable de la casser avec le casse-noix ordinaire qu'on injecte. Mais le chêne, on peut faire la même chose. Puis le chêne, si on peut trouver des glands de chêne qui sont douces, pourraient être facilement sur une table avec la noisette à casser. Là, on regarde sur d'autres choses au niveau du chêne, on regarde plus la farine puis tout ça à cause de goût. Mais dans les arbres qu'on a plantés en 2002-2003, il y avait des hybrides de chêne blanc que techniquement, ces glands-là étaient douces. Fait qu'éventuellement, ça va sortir, là, on va voir ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est avant de parler de passage, il faut que vous me disiez, il faut dire, OK, où est-ce qu'on s'en va? Puis c'est là que le club de noix, on essaie de bien démystifier les choses. Là, à partir de là, mettons qu'on parle de noyer noir.
Oui, exact. Je pense qu'on parle du noyer noir parce noyer que noir. C'est la plus difficile, mais c'est aussi celle que les producteurs de noix ont déclaré comme celle avec le plus de potentiel économique qui, au final, était... Oui, la noisette, puis sa répartition géographique, puis tout ça. Tu sais, la noisette, c'est telle que telle, mais quand on regarde les noix à coque dure, le noyer noir, c'est celle qu'on va voir le plus souvent verger d'envergure, puis il y a cet enjeu-là de manutention. Donc, parlons du noyer noir.
Hey, pourquoi qu'ils disent ça? Ma première question, c'est pourquoi tu dis que la noyer noire? Parce qu'il y a déjà Hammond, au Midwest américain, qui en fait une production depuis 30-40 ans, qui est acheteur et distributeur de la noyer noire là. Fait qu'on sait que c'est possible, tu sais, en voyant de cette façon-là. Puis la seule possibilité, tu sais, t'apprends tout le temps des meilleurs que toi. Hein? T'essaies de d'émuler des gens qui arrivent là-dessus. Fait que gars, je pense qu'ils ont fait des tests, eux autres, là, dans le noyer noir. Ils disent ça là-dedans. Ils font de telle façon, ils ramassent les noix, là, puis ils ont des machines industrielles pour les casser. Après ça, au niveau artisanal, ben, il y a eu tous les petits casse-noix qu'on peut faire individuellement, parce qu'avant ça, il est cassé avec un marteau. Marteau ou l'étau. Fait que, l'enjeu du cassage est devenu super important. Puis, ils ont un secret, mais le secret, il n'est pas bien secret. Là. Il faut qu'elle soit cassée, puis il faut que le cerneau soit éliminé de la coque. Puis, quand on envoie une batch de 2-3 kilos, mais il ne faut pas qu'il y ait une coque à l'intérieur, parce que si le client arrive la poigne, puis il mange une coque, concédant, action lawsuit. Fait que ce bout-là est important. C'est pour ça qu'ici, je fais attention. Si on veut avoir une certaine uniformité sur la noix, c'est ce qu'on veut, un peu comme le sirop d'érable, on va faire un BCDE, où chacun va avoir régionalement son goût. Hein? Noyer noir, hein? Tu le prends de bonne heure, tu le prends plus tard, tu le laisses sécher, tu vas avoir différents goûts, les hybrides sont différents goûts. Fait que ceci dit, pour le cassage, pour revenir au cassage, oui, on a investi. On a investi avec l'Université de Sherbrooke puis plusieurs investisseurs, producteurs qui avaient des grandes quantités de noyer noir. On a investi beaucoup. Ils ont investi beaucoup. Et puis... C'est clair, on a essayé de faire un casse-noix qui était industriel, qui pouvait le faire, mais ça s'est avéré là, beaucoup plus dur qu'on pensait. Fait que ce prototype-là ne fonctionne plus. On a laissé ça de côté au club parce que c'est très spécifique à certains producteurs et puis qui ont des grandes quantités. Puis je pense que c'est ça qui va arriver, là. Je vais revenir à la commercialisation. Quand ils vont avoir des gros montants de ces produits-là, ils ont déjà commencé à penser à comment est-ce qu'ils vont vendre leurs produits. T'sais. Chaque produit, dépendamment de la quantité qu'ils vont avoir, puis la sorte de noix qu'ils vont avoir. C'est ça qui est important. Ça fait que ceux qui sont dans le noyer noir, qu'il y en a beaucoup, soit qu'ils vendent à la ferme pas cassé, soit qu'ils s'en cassent là, présentement, puis ils vont vendre juste la noix, donc tranquillement comme ça. J'ai dans l'idée depuis longtemps, pas j'ai, même on en a discuté au club souvent, mais là, c'est. Faut pas penser qu'on est tous bénévoles. Hein. Ça fait 20 ans qu'on fait ça bénévolement. Là. Pas une crise de scène nulle part, sauf que quand on se déplace ou qu'on a des dépenses, on a aussi, je m'en allais avec ça. On a mis sur la table créer une coop pour justement les gens qui ont des noyers noirs, juste pour le noyer noir encore là. Puis arriver un peu comme Hammond, les gens viennent avec leurs noix, on les débroute, on les pèse, on donne un certain montant de la coque et ensuite les casser et ensuite les vendre. Mais c'est
Mais
ça.
Amen, si je comprends bien, c'est une entreprise qui a un verger, qui a une certaine quantité, puis qui... Non, c'est une
Même pas
coop.
de vergers. Ben, ouais, mais ils n'ont même pas de vergers. Ben, ils ont peut-être des vergers, mais ils ont commencé par juste cueillir ou recueillir les noix à certains endroits régionalement. Ils les débroutent sur place, comme je te disais, là. Comme, mettons, moi, chez nous, ça aurait été Saint-Chrysostome. À Saint-Chrysostome, c'est le centre entre Huntington et Hemingford. OK? Parce qu'il y a plus de noyers noirs dans mon secteur. Fait que là, tu dis, OK, c'est l'automne. Ramener ça tout à Saint-Chrysostome. On débroute. À gang.
Mais
Ouais.
c'est là où je veux en venir, c'est que oui, il y a l'approche coopérative, mais il y a aussi l'approche que un des vergers qui est déjà en production décide par ses économies d'échelle, ses infrastructures de recueillir les autres noix, tu sais,
Ah.
en plus de sa production à elle. Elle devient un lieu d'achat puis de distribution. Tu sais,
Ouais.
est-ce que
Ouais.
tu penses qu'il y en a qui auraient ce potentiel-là?
Oui, absolument. Sauf que là, ils vont demander une certaine qualité. Parce que c'est ça
On
qu'ils vont
vient à
vouloir.
l'uniformité.
Une uniformité puis une qualité. Puis quand on est dans le sauvage, dans le noyer noir, on peut avoir de toutes les sortes. L'année passée, c'était pas vergeux. Au niveau des grosseurs, au niveau de l'estomac intérieur, etc. Régionalement, il y a des places, c'était super bon. Fait que ça c'est le bout qui va freiner un petit peu. Parce que, tu sais, je me sens, je suis un producteur, là, puis okay, j'ai une certaine qualité, j'ai un certain produit. Là, il y a trois voisins, c'est un bon voisin, c'est un bon gars, puis le kit, il m'emmène un pick-up plein de bois. Tu sais, je peux-tu y refuser? Écoute, ils sont trop petits, il n'y a pas d'amande dedans. Tu sais. Fait que c'est pas facile, pas facile. Fait que, oui, possiblement qu'il va y avoir des associations de ces producteurs-là qui vont travailler pour l'instant, mais pour le sauvage, puis ça, là, ça va être un petit peu plus dur. Fait que c'est pour ça que la coop est plus. Elle va être plus maniable dépendamment des années. Tout ça, mais c'est. Je dis pas que je veux faire ça, là, mais c'est une possibilité. Parce que je vois très mal M. Boucher ou même les Perrault recevoir du stock sans avoir à s'assurer qu'ils ont la qualité qu'ils ont besoin sur le terrain. Fait que.
Peut-être pour finir, Giulio, si je viens d'écouter notre discussion, puis je suis propriétaire d'une friche agricole, puis que j'aimerais m'initier à la production de noix, là, en quelques mots, les conseils de comment s'initier, puis les choses à ne pas faire.
Va dans le raisin et fais du vin. Non!
On revient
On peut t'étaler. Ah oui, écoute. C'est sûr, la base, c'est de l'agronomie, c'est de l'agricole. il y a bien des gens là, présentement qui achètent des terres agricoles, ils veulent leur mettre la source, puis on ne connaît rien à l'implantation. La base, fais-toi venir. On a une affaire de plus qui est arrivée aussi avec ça, là, c'est qu'on a des conseillers là, pour les Noirs, okay, qui existent. Pour les producteurs, fait que ces gens-là sont là, sont nommés. Commencez par ça, la base de tout, c'est quelle sorte de sol que tu as, c'est quoi ton... anecdote, M. Blais, à Sainte-Croix, il était tout à fait à Sainte-Croix, et il nous disait tout le temps, « Julio, viens voir mes noisettes, viens voir ma plantation, tout ça. » Faux monsieur, j'arrive là, puis... C'est tabarnak, t'as pas de noisettes, tu peux pas planter des noisettes ici, ça marche pas. Mais t'es le premier qui me dit ça, c'est-tu, puis t'es bien de la misère, hein, parce que j'ai pas peur de vous le dire, parce que la terre qui est là, là, c'est pas drainé, elle est du mauvais bord de l'autoroute. L'autoroute, là, qui passe, là, mais il y a du vent, il y a du sel, tu sais, fait que les conditions du sol, t'es pas propice. Et tout de suite après ça, l'année d'ensuite, là, ils les ont arrachés, puis ils les ont emmenés à Québec, ces noisettiers. Ta base, c'est ton sol. Les Perrault, hein, les Perrault l'ont appris. Ils ont pas drainé leur sol avant la plantation. Ils ont fait la plantation. Puis là, ils ont fait le drainage après. Fait que la base, ton sol, OK? Check ton sol. C'est quoi que tu as? C'est-tu drainé, pas drainé? Le drainage, là, on fait vite. Monsieur Kramer, pépinière Kramer, 2000 acres en production d'arbres. L'autre produit juste des arbres. La première chose qu'il fait dans ses champs, c'est qu'il draine ses champs. Pour des arbres. Ah, oh, les racines vont rentrer dans le dingue. Non. Il faut drainer. OK? Fait que comme en agriculture, comme en maïs, soya, c'est une culture. Ça a besoin d'eau, oui, mais ça a besoin de drainage. Fait qu'à partir de là, paf, on check les sols. Ensuite, on commence à regarder la situation géographique, puis là, on regarde qu'est-ce qui pousse alentour, s'il y a de la noisette, s'il y a du noyer noir, s'il n'y en a pas de noyer noir. Tu es à Québec, là, c'est bien beau, on en a des noyers noirs à Québec. Mais c'est ça que tu veux comme production primaire? tu as les secondaires, si tu veux du noyer noir, puis tu iras dans les hybrides après pour essayer. Fait que tu sais, c'est vraiment localisé d'où c'est que t'es, qu'est-ce que tu peux produire. Donc, ça te prend du monde qui connaisse un peu ça. Puis ensuite, commencer l'implantation de ça. Mais c'est sûr que pour moi, la noisette, c'est facile à vendre, c'est facile. C'est un arbre, là, ça prend du temps, il y a de la maladie, il y a des insectes, tout ça, mais je veux dire, quand tu vas arriver à la mise en marché, c'est la plus facile, parce que présentement, il y a des gens qui font des U-pick dans la noisette, et tu peux cueillir facilement. Et puis, ensuite, là, tu peux aller dans la section arbre avec des noyers, c'est sûr, noyer, tout ça, mais pas lâcher le chêne là, avec la farine de chêne, là, chez Ben. Je trouve ça phénoménal là, à Sherbrooke. Puis il y a des gens là, qui. J'ai oublié son nom. Qui fait de la farine de chêne, de gland de chêne.
À Charrette.
Oui. Fait que. Racine.
Prendre racine.
Prendre racine, merci. Ben oui. Fait que, tu sais, faut pas. Si tu es dans un secteur forestier, ben. Tu vas avec le chêne, tu vas avec le caliovan, avec tes bois sûrs, puis tes noyers, tout ça. Là-dedans, c'est fantastique, ça. Puis, tout le temps, biodiversité, mettez pas juste une sorte à grandeur, s'il vous plaît. OK, c'est fini. On le voit avec la graine du frêne. Toutes les arbustes ont des maladies, ont des insectes. OK, dès que tu te mets en verger, s'il y a une épidémie qui rentre, qui magane tous tes arbres, ça prend un mulot pour te scraper 15 arbres. Fait que ça fait 10 ans qu'ils poussent. Tu comprends-tu? Ça fait que mélangez vos essences, assurez-vous d'avoir une bonne biodiversité d'essence. C'est là que la permaculture et les affaires de même peuvent rentrer. J'aime bien ça. Puis ils ne pensaient pas à mettre des abanois. Vous pouvez penser d'en mettre des abanois en brise-vent ou en bande riveraine. Mettez-en pour la fonte. N'essayez pas d'essayer de collecter des noix dans une bande riveraine. Hein, parce que ça tombe. Là,
non, mais dans une haie brise-vent, oui.
Dans une haie brise-vent, tu es soit sur le bord de fossé, un chemin. Ah. OK. À moins que tu es en intercalaire en champ, dans des champs de maïs, peut-être même là, où on tombe, ça devient plus un aria, un problème pour les producteurs. Essayer d'associer ça, il faut être certain des arbres dans le champ agricole, dans tes arbres pour la faune, ça c'est certain. Tu veux du chevreuil, tu veux de la dinde sauvage, tu veux whatever, ben oui, mets de ça. Et ça va t'emmener de la faune, puis là tu feras, t'ouvriras pour la chasse chez vous.
Julio, merci. Merci des conseils, puis merci du partage de ton expérience.
Fait plaisir. J'espère que ça va aider du monde.
Absolument.
On se revoit à l'automne noir, j'espère, cette année.
Ouais, on l'espère, un super bel événement. Puis, ben, oui. même pour finir, je tiens à souligner tout le travail que le club a fait toutes ces années d'avoir mobilisé des arbres, l'information sur le site Internet, la lettre du club qui est un archivage de connaissances puis d'expériences énormes. Les fiches techniques, la foire aux questions, vraiment beaucoup d'informations pour ceux qui veulent s'initier puis se lancer dans cette belle aventure. Donc, merci à toi puis merci à tous les gens du club.
Oui, absolument, les gens du club. On est tous
Juste
moi, là. C'est bon. Merci beaucoup,
merci,
Sam.
Merci, Julio.
Bonne journée. Ciao.
Bye.